Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos.
Prolongez le débat sur Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Le grand dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 6 janvier 2015. Bienvenue à ce premier numéro de l'année. Nous sommes donc dans le grand dialogue, premier grand dialogue de la semaine. Nous parlerons aujourd'hui des violences. Est-ce que ces violences de la semaine dernière menacent les pourparlers qui se tiendront en janvier à Alger? Nous allons tenter de le savoir avec nos invités, Sbeti Ag Agado, membre de la société civile, Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA qui intervient au téléphone, ainsi que Sidi El Meidi Aga Abaka, membre également du GATIA. Je suis Famoussa Sidibé, Piting Diara est à la mise en onde. Nous vous disons bienvenue.
Studio Tamani.
Après donc Bamba, Ber, et c'est le tour à Nampala de subir les violences que nous constatons entre l'armée malienne et les groupes armés entre elles-mêmes dans le nord du pays. Pour donc cette première partie, nous allons faire le point sur les différents conflits qui ont eu lieu cette semaine, la semaine dernière donc, avec nos invités. Alors, ma première question, tout a commencé par Bamba, ensuite Ber, et nous voilà à Nampala, quelques 500 kilomètres de Bamako. Où vont-elles s'arrêter ces violences, Spéti?
Merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous les auditeurs. Je commencerai par présenter mes voeux à tous les auditeurs, mais également à tous les Maliens. Espérons que cette année soit une année enfin de sagesse pour tous. Ces groupes, comme vous le dites, nous avons l'impression qu'ils sont dans un territoire où ils ont une très grande liberté de manœuvre. Et nous, de la société civile, évidemment, cela nous laisse perplexes quant aux capacités de la mobilisation internationale, quant aux capacités de nos pouvoirs, avec bien sûr l'armée en tête, de pouvoir circonscrire ces problèmes-là. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de ligne directrice. Sinon, dans un pays où les gens sont prêts au dialogue, sont en train de tout faire pour que des accords favorables à tous parviennent, on ne comprend pas cette violence-là, on ne la comprend pas. Alors, tout se passe comme si il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu par rapport à cette violence-là. Et ces gens... Nous ne pouvons pas exclure de ces gens-là la communauté internationale. C'est amer à dire, elle est venue nous aider. Mais nous ne comprenons pas qu'on ne puisse pas, à ce jour, après 2 années de chaos, trouver une formule pour mettre fin à ce chaos-là. Parce qu'il y a des groupes rebelles, il y a des groupes milices, il y a des groupes terroristes, il y a tellement de monde qui s'agite. Pourquoi ?
Alors, pourquoi? Alors, nous avons en ligne Sidi El Meidi Ag Abaka du Gatia. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe actuellement dans le nord du pays?
Merci de m'avoir donné la parole. Je salue tous les auditeurs de la radio Tamani. Au nord du Mali, ce qui se passe, je pense que tout le monde le sait. Parce que depuis l'occupation du Nord par le mouvement séparatiste, après la conquête, on a effectivement compris qu'il y a plusieurs problèmes dans certaines localités. Moi, je vais juste faire un petit rappel. Lors de la conquête du Nord, on se rappelle que l'armée malienne et l'armée française ont fait le travail à Gao et à Tombouctou. Mais cependant, pour aller à Kidal, l'armée française est partie seule. Alors moi, je pense que c'est à partir de là que certains problèmes sont nés. Si on revient à ce qui se passe aujourd'hui au nord du Mali, Surtout ce dernier jour où il y a eu quelques affrontements entre nous, les rebelles, Yemnela, les séparatistes, il faut juste comprendre que le peuple en a vraiment marre, le peuple est fatigué, les populations sont fatiguées d'être dépouillées, d'être volées, les populations sont fatiguées d'être manipulées. Aujourd'hui, elles veulent se sentir à l'aise, elles veulent se sentir sécurisées, elles veulent réclamer l'éducation, elles veulent avoir le développement, mais c'est impossible avec des gens qui ne représentent absolument rien, qui demandent l'indépendance au nord du Mali.
Alors, elle me dit, tout ça c'est compris, mais ça fait partie du passé. Là, actuellement, on parle des violences qui se sont déroulées la semaine dernière et pendant le week-end à Nampala. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui se passe actuellement?
D'abord, à Nampala, nous condamnons fortement cette attaque. Et on sait que ce soit les islamistes ou que ce soit les MLA, en tout cas, c'est la même chose. Mais si moi je reviens aux affrontements qui nous ont opposés aux séparatistes du MLA, que ce soit à Tessit, à Intil, que ce soit à Bamba, c'est comme je viens de vous le dire, nous sommes juste en train de libérer des populations qui sont fatiguées de la manœuvre du MLA. C'est aussi simple que ça. Et partout où nos populations seront maltraitées, partout où nos populations seront humiliées, nous allons répondre pour défendre leur honneur.
Merci beaucoup, Sidi El-Meidi Ag Al-Baka du Gatia. Alors, Spéti Ag Akado, vous êtes membre de la société civile. Aujourd'hui, on parle de ces violences. C'est quand même assez rare de voir de telles violences d'une telle ampleur depuis que le processus depuis que les pourparlers ont commencé à Alger. C'est vraiment la première fois qu'il y a tant de morts autour des violences qui se passe à l'approche des rendez-vous d'Alger. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un point de non-retour?
Il n'y a jamais de point de non-retour quand on prend un problème et on tente de le régler par les voies du droit. Il se trouve que notre problème, le problème du Mali, est comparable à une pêche, n'est-ce pas, dans de l'eau trouble. Et quand l'eau est troublée, tout le monde vient, tout le monde cherche du poisson. Comment imaginer qu'une communauté internationale qui se mobilise avec autant de force et tant de ferveur puisse trouver des moyens pour dire ceci sont bons, ceci ne sont pas bons, ceci sont moins bons, nous allons faire le distinguo. C'est tout ça là qui a créé le désordre. Et c'est pour dire que si la communauté internationale revient sur sa vision, en tout cas sa conception, son approche actuelle du problème, nous sommes convaincus que le point de retour ne serait pas atteint, parce que il faut absolument désarmer tout le monde. Il ne faut pas nous coincer les gens dans un forcing d'un accord. Imaginez qu'on trouve même un accord aujourd'hui avec le MNLA et tous ces gens-là. Vous pensez que ça va apporter la solution? Non. Pour la simple raison que ceux-là qu'on a voulu mettre à l'écart, n'est-ce pas, sont les complices de ceux-là avec lesquels on veut négocier. Et parallèlement à ça, il y a les milices qui pensent que le MNLA n'a aucune raison de prendre des armes, que les autres populations du Mali ont toutes les mêmes raisons de le faire. Si c'est la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, nous en souffrons tous, donc nous devrons tous prendre des armes. Donc si on trouve que le MNLA est fréquentable, parce qu'à entendre nos autorités, les médiateurs, les MNLA, c'est des gens respectables, c'est des gens, c'est des Maliens, c'est des frères, on continue de faire les louanges de ce monde-là pendant qu'ils continuent de tuer. Donc c'est pour vous dire que la solution, elle est à portée de main. La mobilisation internationale, la mobilisation de l'État, le bon sens, veulent que, tout simplement, on arrête de passer à côté de la solution. La solution, c'est de prendre tous ceux qui ont des armes, les traiter sur le même pied d'égalité. Soit on les assoit tous, on discute avec eux, ou bien on les récuse tous et on fait la guerre à ceux qui ont les armes.
Alors Sidi El-Mehdi Ag Albaka, vous êtes membre du Gatia. Aujourd'hui, c'est Acmi qui a revendiqué, si je ne m'abuse, les attaques sur le camp de Nampala. Pensez-vous que ces violences, ces terroristes-là ont du poids dans les pourparlers futurs d'Alger?
Écoutez, moi, je n'arrive vraiment pas à faire la différence entre les terroristes et les grandes têtes du MLA, parce que je vous rappelle quand même que je viens de la région de Kidal, et chez moi, vous avez deux frères qui gèrent les MLA, vous avez deux autres frères qui sont en sardine, et après qui s'effondraient pour donner naissance au MIA, le mouvement islamique de la Zawane, et après qui a donné naissance au ACIA, le Haut Conseil de la Zawane. Ça veut dire qu'on a juste changé de costume, mais les mêmes têtes continuent toujours de gérer. Donc, je pense que ce qui s'est passé à Nampala est de leur responsabilité, et que ces islamistes, une autre partie de ces islamistes, c'est celle avec laquelle le gouvernement est en train de discuter en ce moment. Et imaginons demain qu'il y ait un accord et qu'on demande de réinsérer ces gens qui sont à MDLA, qui sont au HCIA. Mais vous allez nous demander de faire de la place aux terroristes dans nos forces armées de sécurité? Vous allez nous demander de faire de place aux terroristes dans notre administration? Mais quand même, qu'on arrive à dire les choses telles qu'elles sont et qu'on assume.
Alors, Spéti Akado, membre de la société civile, pensez-vous que les appels au cessez-le-feu de la MINUSMA et de Bamako puissent changer quelque chose aux violences qui se passent dans le Nord?
Je ne pense pas, je ne suis pas sûr que des simples appels puissent amener les gens. Les appels de la MINUSMA sont moins pathétiques que les appels de la communauté, des communautés maliennes, des communautés singulièrement du Nord, qui n'ont rien fait pour mériter d'être méprisées et torturées de la sorte. Donc, des appels, on n'en croit pas. Nous avons, en tout cas au niveau de la société civile, nous avons l'impression, et nous l'avons dit à maintes reprises, que la MINUSMA, la France, l'Algérie, tout ce monde-là qui s'agite autour de la question ne sont pas sincères avec nous. Ils ne sont pas sincères, c'est amer, ce n'est pas bon de le dire quelque part, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, mais nous pensons qu'on ne peut pas dépenser autant d'énergie, autant de moyens, et laisser un tel chaos se dérouler, n'est-ce pas, sous leurs yeux.
Alors, la violence se transporte au sud, si on en croit aux derniers événements qui se sont passés à Nampala, pensez-vous que cela pourrait aller au-delà?
Mais pourquoi pas? Si l'armée vient se concentrer dans le sud, n'est-ce pas? Et la MINUSMA, elle n'est pas venue pour se faire tuer. Moi, quelque part, je suis même étonné de voir tous ces regroupements, n'est-ce pas, militaires à l'intérieur de nos villes ici, alors que le champ sur lequel on a besoin de ces forces-là.
La MINUSMA a quand même payé un lourd tribut.
Bien sûr qu'elle le paye, mais c'est pas en allant sur le champ de bataille. La MINUSMA, elle est victime de, comme tout le monde, elle est victime des attaques. Et tout le monde, et ces gens-là, ils ne veulent pas voir la MINUSMA ici. Ils savent que s'il y a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, leur empêcher de faire leur trafic et tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est bien sûr la MINUSMA. Ce n'est pas l'armée malienne. N'est-ce pas? Donc, la MINUSMA, elle gêne. Donc, même quand elle ne se déploie pas sur le terrain, elle sera victime.
Juste quelques secondes de pause et nous nous retrouvons juste après.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre compte Twitter et également notre site web www.studiotamani.org. Nous sommes donc dans ce débat qui parle des violences. Est-ce que ces violences de la semaine dernière menacent les pourparlers d'Alger? Nous tentons de le savoir avec nos invités Spéti Ag Akado, membre de la société civile, et Sidi El Mehdi Ag Albaka du mouvement d'autodéfense Gatia. Malheureusement, nous n'avons pas pu rentrer en contact avec les membres du MNLA et bien malheureusement, le gouvernement malien aussi n'a pas pu participer à ce débat. Nous sommes donc à la deuxième partie, le poids des événements sur le processus d'Alger. Nous allons tenter de le savoir avec nos invités. Alors, tout d'abord, Sidi El Hamedi Ag Albaka du Gatia, pensez-vous que ces violences que l'on voit aujourd'hui à Nampala, on peut les stopper avant que ça n'aille trop loin?
Moi, contrairement au grand frère, je suis vraiment optimiste parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y avait pas un dispositif aussi important à Nampala. Mais depuis hier, Ségou a vraiment assumé ses responsabilités en renforçant la position de Nampala. Et Nampala aujourd'hui, c'est le drapeau malien qui flotte. Il y a des militaires maliens qui ont quitté et le sud et le nord qui sont en train de patrouiller au moment où je parle entre Ségou et Gao. Ça, c'est quelque chose aussi qui rassure. Moi, je pense que les violences ne peuvent pas aller au-delà de Nampala si l'armée se décide d'occuper le territoire, parce qu'il faut qu'on arrive à se dire certaines choses. On dit qu'il y a eu un cessez-le-feu qui s'est signé entre le mouvement armé et l'État malien. L'armée malienne respecte le cessez-le-feu, mais devant les communautés internationales, l'armée malienne fait état d'attaque. Et mieux que ça, l'armée qui a signé des accords de défense avec la France, qui est attaquée, et on sait que la France aujourd'hui a tous les moyens qu'il faut pour essayer d'intervenir avant même une attaque.
Donc vous pensez que l'armée française ne fait pas son travail?
Non, absolument pas. À quoi servent les accords qui ont été signés avec la France? Moi, je pense que c'est le moment où jamais pour nous expliquer.
Alors, vous êtes du Gatia, Sidi. Dites-nous, en quoi est-ce que la zone de Nampala est une zone stratégique, notamment pour les terroristes?
Non, mais pour qui connaît la zone, on sait bien que c'est avant la frontière. Et ensuite, pour qui sait un tout petit peu le dispositif qui se trouve à Gao aujourd'hui, les islamistes et les séparatistes n'ont pas intérêt à essayer d'attaquer Gao, ils ne pourront pas. Maintenant, la région de Tombouctou, c'est pareil, mais seulement c'est de l'autre côté de la frontière que effectivement le dispositif n'est pas aussi considérable. Et voilà ce qui a mal marché ou que ce qui n'a vraiment pas marché.
Quand vous dites de l'autre côté de la frontière, vous parlez d'où?
Je fais allusion à Nampala, naturellement.
Alors, le calendrier d'Alger sera-t-il respecté? Merci beaucoup, Sidi Smeti Agado, membre de la société civile. Est-ce que le calendrier d'Alger pour le mois de janvier prochain sera maintenu?
Si ça ne tenait qu'à la France et à l'État du Mali, ça va tenir. Parce que nous, de la société civile, nous avons totalement dénoncé toute la conduite de ce processus-là parce que nous savons que c'est très mal parti. Mais vous vous rendez compte vous-même que la France, à travers son ministre des Affaires étrangères qui est passé ici il y a quelques jours, tellement ils tiennent à cet accord-là, je voudrais dire qu'ils tiennent à cet accord-là plus qu'à nous autres Maliens, n'est-ce pas? Il met dans la balance la volonté de Ibeka. Il oublie que Ibeka, c'est nous les Maliens. Il doit nous écouter. Il ne doit pas s'aventurer dans des signatures sans avoir l'aval de la population malienne. Et il sait qu'il ne l'a pas. En tout cas, les accords sous la forme qu'on a vus, les Maliens n'adhèrent pas à ces accords-là. Et Ibeka le sait, les autorités le savent, les Français le savent. Mais malgré tout cela, vous voyez, il pense que c'est faisable, il faut aller à un accord. Donc c'est pour dire que la France ne se préoccupe pas des violences. D'ailleurs, elle se plaît dans un tel exercice. Pour qui connaît la France? Moi, je suis historien pour le dire. Je sais que les histoires de la France...
Elle perd des hommes, la France.
Elle perd des hommes, mais la perte des hommes face à des intérêts, à des gros intérêts économiques, la France ne verse pas des larmes sur des vies humaines quand ses intérêts, n'est-ce pas, sont en jeu. C'est pour dire seulement que la France privilégie cet accord-là, dans lequel, bien sûr, elle a toute Elle a tout son agenda est fixé par rapport à cet accord-là, des intérêts stratégiques, quitte à ce que le désordre continue, pour donner toujours l'impression qu'elle peut intervenir, qu'elle peut aider, qu'elle peut faire ça. Ça, c'est le style de la France. Mmh. Et donc, c'est pour dire que si ça ne tient qu'à la France, l'accord sera signé, même si les morts d'hommes vont continuer pendant un siècle encore. Ce n'est pas grave. Mmh. Ce n'est pas grave.
Alors, Sidi El Mehdi Agha Al-Bakka du Gatia, pensez-vous que ces violences auront un effet quelconque? Et si oui, quels seront ces effets-là sur le processus d'Alger?
Non, je ne pense pas que ces violences puissent influencer d'une façon, d'une manière ou d'une autre les accords. Moi, je crois vraiment que les accords seront signés. Mais le problème, ce n'est pas la signature des accords. Le problème, c'est l'application des accords une fois signés. Parce que, déjà, quand vous voyez aujourd'hui sur le terrain, la façon dont les choses commencent à se préciser, vous avez à peu près 7 groupes, même s'il y a 2 ou 3 qui ne sont pas reconnus de façon officielle. Sur les 7, il y a 4 qui sont contre le fédéralisme, il y a 4 qui sont contre une autonomie ou un statut particulier, mais il y a 3 aussi qui essayent de dire ben, c'est nous qui représentons le peuple du Nord, et nous voulons l'indépendance ou bien nous voulons le fédéralisme. Donc moi je pense que le problème, ce ne sera vraiment pas la signature des accords, mais plutôt l'application de ces accords.
Alors, l'application de ces accords, Spidi Agha Kado veut réagir par rapport à ça.
Je veux juste réagir pour dire aux jeunes frères que quand ils pensent que les accords seront signés, qu'ils nous précisent bien. Est-ce qu'ils pensent que le projet qu'on a vu, est-ce qu'ils pensent qu'il doit être signé ou bien il peut être signé par nos autorités? Moi, si j'ai bonne mémoire, je sais que les autorités ont rejeté la plupart des points qui choquent dans cet accord-là et qui est revenu. Depuis les éléments, c'est revenu. Les mêmes points sont revenus dans le projet d'accord. Est-ce qu'ils pensent que tout compte fait, on va signer ça? Je ne pense pas. À moins qu'on nous rassure que tout ce qui dérange, n'est-ce pas, tout ce qui dérange, tout ce qui n'est pas conforme, n'est-ce pas, à la volonté des populations, ne pourra pas passer. Parce que on a espoir quand même que la dernière signature, c'est ici. Ils peuvent s'engager par rapport à ça en Algérie, là-bas, mais je ne suis pas sûr que les Maliens soient prêts à accepter ce que nous avons vu, en tout cas dans le projet d'accord.
Alors, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Modibo Keïta, qui est le haut représentant du chef de l'État, c'est pour parler entre le gouvernement malien et les groupes armés, dit quand même qu'il faut que chaque parti fasse des concessions. Pensez-vous que ces concessions peuvent aller au-delà de ce qui est fait actuellement, Spéti?
Nous ne pensons pas en termes de parti, même si juridiquement on veut coincer les choses dans des considérations juridiques. Nous pensons qu'il y a 2 partis. Il y a l'État du Mali et les populations du Mali. Voilà, les populations du Mali,
et
toutes confondues.
Les groupes armés,
tout le monde, je les mets là-dedans. Tout le monde a besoin que l'État fasse des concessions. Et ces concessions-là, elles ne doivent pas être faites à un groupe parce qu'ils ont des armes. Ça ne marchera pas. Donc c'est pour dire que ce que l'État peut concéder, il doit le concéder à tous les Maliens, qu'ils soient armés ou non. C'est pour dire encore que le représentant du chef de l'État est un Malien comme nous autres. Il n'a pas une capacité d'analyse supérieure à l'ensemble des Maliens. Nous savons tous qu'il y a des concessions à faire.
Donc vous pensez qu'un statut particulier ne serait pas le bienvenu?
Il ne peut pas être le bienvenu.
Pour les régions
particulier, pourquoi? Pourquoi il y aura un statut particulier pour les populations du Nord? Pourquoi? Ça, c'est anti-État de droit, anti-État, anti-intégrité. Même si vous particularisez quoi que ce soit dans un territoire, vous créez tout de suite des déséquilibres et c'est pas bon.
Alors, merci beaucoup à Spéti Agha Akado. Alors, Sidi El Mehdi Agha Al-Bakka, vous êtes du Gatia. Dites-nous quelle est la position actuellement du Gatia par rapport aux autres membres de la plateforme.
La position du Gatia, je pense qu'elle est vraiment très très claire. Le Gatia, c'est d'abord un groupe d'autodéfense. Le Gatia, c'est un groupe de républicains, de Maliens, qui soutiennent bien sûr toute idée qui va dans le sens d'un Mali un et indivisible, laïque, démocratique. La position de Gatia aujourd'hui, c'est la position de tous les Maliens.
Alors, on constate également des dissensions au sein de la coordination. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qui est avec vous et qui n'est pas avec vous? Est-ce que vous avez enregistré des adhésions de membres de la coordination?
Ce que je peux dire officiellement, c'est qu'il y a des membres qui ont quitté les MNELA et les ACA, qui ont aussi créé leur propre mouvement. Mais jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'ils n'ont pas adhéré à la plateforme, mais ils sont aussi revenus sur la même logique que nous. Ils reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali, ils reconnaissent le drapeau malien, sa forme laïque et républicaine, mais même s'ils veulent travailler aussi à leur façon, ils se sont décidés de reconnaître ce que nous avons toujours reconnu.
Alors, Spéti Agado, que pensez-vous de ces dissensions au sein de la coordination, qui est l'aile dure quand même des groupes armés?
Dissensions, la coordination du MNLA.
Oui.
Les dissensions, nous sommes habitués. Nous sommes habitués. C'est une question de positionnement. C'est-à-dire que quand on crée les conditions, d'appâter les gens. Alors chacun se dit, si je ne suis pas dans telle position, je n'aurai rien, ou bien j'aurai moins que l'autre. C'est un peu ça, il faut l'expliquer comme ça. Et ça, ce n'est pas seulement caractéristique à la coordination. Si vous regardez le Gatcha, si vous regardez les autres mouvements, n'est-ce pas, pro-républicains, ils sont divisés. Mais pourquoi ils ne deviennent pas un même morceau derrière les autorités? Mais vous voyez, il y a plus de divisions entre eux qu'il y en a de l'autre côté. Donc c'est pour vous dire que, c'est pourquoi je vous dis, nous estimons que ces groupes armés-là, qu'ils soient milices, qu'ils soient rebelles, qu'ils soient djihadistes, n'est-ce pas, nous ne pensons pas qu'il soit légal de ça, que des autorités, n'est-ce pas, responsables s'asseyent devant des groupes et discutent de l'avenir des régions. Parce qu'ils ne peuvent en aucun cas représenter la totalité des populations. Ils ne sont pas représentatifs, à mon avis, des populations. Et c'est pourquoi il faut arrêter de penser que signer un accord avec des groupes armés qu'on a concocté, on a trouvé une formule pour qu'ils disent tous la même chose, même s'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Vous voyez, dans quel moule on veut mettre les gens? Des gens qui disent qu'ils défendent la République et d'autres qui disent qu'ils sont anti-républicains, on veut les amener à dire la même chose. Tout cela, pour nous, est à côté de la légalité. La légalité veut qu'on ramène le débat à l'intérieur du Mali. Ceux qui sont armés, ceux qui ne sont pas armés, sont tous des Maliens et sont tous victimes des conditions climatiques, tous victimes de la déliquescence de l'État. Ils sont tous victimes, n'est-ce pas, de la pauvreté, etc., etc.
Merci beaucoup, Spéti. Alors, on me fait signe de l'autre côté que nous sommes en contact avec Ataï Ag Mohamed du MNLA. Ataï, bonjour.
Bonjour,
oui, on vous reçoit très bien dans ce studio. Alors, vous prenez le débat en vol. Nous parlions des menaces qui secouent actuellement le nord du pays, notamment la semaine dernière et ce week-end à Nampala. Que pensez-vous de ces violences, de ces regains de tension entre votre mouvement et certains mouvements des groupes armés dans le nord et dernièrement ces attaques à Nampala?
D'abord, je voudrais saluer tout le monde avant d'attraper ce débat-là pour des questions de réseau. Je pense que, au fait, ce qui se passe aujourd'hui dans ces zones que vous venez de citer est bien lié à la lenteur de pourparler, à la lenteur de négociation, qui tantôt, ceux qui essaient de nous aider à avancer sont parfois confis. Parce qu'à force de discuter, de créer des diversions autour des participants aux négociations, autour du fait que le gouvernement du Mali tente de retarder tout en espérant que lui-même il va se créer des belligérants qui n'existent pas et que c'est une façon de brigler les vrais acteurs les foyers terroristes existent encore et qu'ils se développent et qu'ils essayent de réagir d'une autre méthode. Maintenant, tout ceci, bien sûr, doit interpeller l'ensemble des grands acteurs. Je parle des faits qui sont en belligérance réelle. De comprendre qu'aujourd'hui, le défi, c'est de se dire la vérité et de trouver une solution adéquate, durable à cette crise-là, qui, au-delà de ceux qui ont des contradictions politiques, il y a là aussi la prolifération de ceux qui ont d'autres projets, d'autres ambitions, et qui ne disent pas encore leur nom. Donc, nous, comme nous l'avons fait, nous condamnons toutes les attaques terroristes qui ont visé toutes les forces, qu'elles soient maliennes ou internationales. Nous condamnons ceci, et pour nous, c'est une interpellation internationale, c'est un signal, c'est une sorte d'alerte pour que l'ensemble des grands acteurs politiques discutent et avancent vers une solution vraiment adéquate et qui réponde à l'aspiration et à la demande des partis.
Merci beaucoup Ataï Ag Mohamed. Je rappelle que vous êtes membre du MNLA et vous intervenez depuis le nord du pays. Alors nous allons observer quelques secondes de pause juste avant d'entamer la troisième partie.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, qu'est-ce qui peut permettre le retour de la paix au Mali et le retour du calme dans le nord du pays que, je vous rappelle, qui a été secoué la semaine dernière par des violences à Gao et à Tombouctou, plus au sud et au centre, également vers Ségou, dans la région de Ségou. Donc, du côté de Nampala, le camp de l'armée malienne a été attaqué par des éléments terroristes. Alors, nous allons donc entamer cette troisième partie avec nos invités, cette troisième partie qui tente de savoir si ces violences sont-elles le dernier barreau d'honneur des groupes armés avant la signature d'une paix définitive au Mali. Alors nous sommes donc avec Spedi Agado, membre de la société civile. Par téléphone, nous sommes avec Sidi El Meidi, Ag Albaka, membre du Gatia, et également par téléphone Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA. Cette troisième partie donc. Donc, qu'est-ce qui peut permettre le retour du calme dans le nord du pays, Spedi Ag Akado, membre de la société civile?
Le retour de la paix est nécessairement subordonné à une reprise de la voie du droit. Je le répète, il faut qu'on soit objectif. Mon frère qui vient de parler du MNLA sait pertinemment que l'État n'a aucun pouvoir pour diviser qui que ce soit. Ce qui les divise, ce sont des questions d'intérêt. Ils ont attaqué, ils ont pactisé avec ces terroristes-là, ces djihadistes-là. Ils ont pactisé ensemble pour entamer le Mali. Et dans leur recherche de positionnement et d'intérêt, ils se sont trouvés dos à dos aujourd'hui. Ils sont en train de s'entretuer. N'est-ce pas? Et tout cela doit les interpeller pour leur dire qu'ils ont commencé une aventure qui n'est pas bonne. Et aujourd'hui, qu'ils soient à l'écoute des Maliens. S'ils prennent conscience du cri des Maliens, du cri de cœur des Maliens, que nous n'avons rien fait pour mériter ce qu'ils sont en train de nous faire subir, que l'État qu'ils condamnent, nous les condamnons tous ensemble, l'État même se condamne, l'État même reconnaît qu'il a fauté. Alors dans ces conditions, revenons ensemble. Que ce soit en Alger, que ce soit à Bamako ou ailleurs, revenons ensemble et soyons objectifs. Que notre pays est en train de perdre la face. Notre pays est sur la très mauvaise pente. Alors mettons l'État devant nous et ensemble, surveillons l'État, mettons-le dans les conditions où il ne doit plus reprendre ses fautes. Comme d'ailleurs sont en train de le faire, j'aime citer l'exemple du Burkina. Les Burkinabés ont connu une crise, ils se sont assis, ils ont réfléchi et ils sont en train de sortir de la crise. Pourquoi nous? Ce sont les armes qui doivent orienter nos négociations. Et les armes du MNLA. Un MNLA qui est en train d'être le bouclier de la France. Donc c'est pour lui dire que nous sommes tous conscients, eux-mêmes ils sont conscients que la France est en train de nous utiliser, d'utiliser ce truc-là, nos pouvoirs, eux, les MNLA, les terroristes, tout le monde est en train d'être utilisé. Donc oublions tout ça et revenons à à des positions plus objectives qui vont nous permettre de retrouver ce que nous avons perdu.
Alors, Ataï Ag Mohamed, vous êtes membre du MNLA. Nous nous excusons auprès des auditeurs car la ligne est très mauvaise et nous avons donc Ataï en ligne. Ataï, l'AMINUSMA doit normalement tenir une rencontre entre les différents groupes armés et le gouvernement du Mali. Est-ce que le MNLA et les membres de la plateforme vont participer à cette réunion à Bamako?
Écoutez, d'abord, j'aimerais que vous me permettiez de dire à mon frère qui vient d'intervenir qu'aujourd'hui, nous avons déjà dépassé ces stades.
Allô? Allô? Malheureusement, nous sommes... Allô? Oui, allez-y.
Les dirigeants politiques. Allô?
Allez-y, on vous entend.
Est-ce que vous recevez?
Allez-y.
J'aimerais bien que mon frère comprenne qu'aujourd'hui, nous avions dépassé les stades des discours démagogiques et populistes qui consistent à tromper l'opinion malienne sur le fait qu'un tel ou un tel est sincère sur ce qui est arrivé. C'est
Ataï, malheureusement, la ligne ne passe plus du tout. Nous allons justement vous demander de vous déplacer un tout petit peu pour que la ligne soit meilleure. Et nous allons vous revenir juste que le temps pour la ligne d'être un peu plus stable. Et nous allons revenir vers vous.
Allô?
Nous allons revenir vers vous dès que la ligne sera un peu plus stable. Alors, Sidi El Meidi Ag Albaka du Gatia, est-ce que vous êtes au courant de cette réunion qui va se tenir, réunion sous l'égide de l'AMINUSMA qui va se tenir à Bamako? Est-ce que le Gatia va prendre part à cette réunion?
Moi, je ne vois vraiment pourquoi le Gatia ne peut pas ne pas prendre part, parce que le Gatia, c'est un mouvement comme tous les autres mouvements. Le Gatia sur le terrain a fait aussi ses preuves, plus que dans certains mouvements qui essayent de se vanter d'exister ou de ne pas exister. Moi, je pense que le Gatia va y participer, comme tous les autres mouvements, bien sûr, qu'ils soient de la plateforme ou de la coordination.
Alors, nous allons retenter d'avoir Ataï Ag Mohamed. Ataï, vous avez la ligne, vous pouvez y aller.
Allô, est-ce que vous recevez bien? Oui,
nous vous recevons, allez-y.
Ok, en fait, j'aimerais d'abord dire à mon frère qui est au studio, qui vient d'intervenir, je ne sais pas de quel groupe il est exactement.
La société civile.
Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs qui participent au processus de paix ont dépassé les stades des discours démagogiques et populistes qui consistent à tromper et à guider l'opinion malienne. Aujourd'hui, nous savions qui est terroriste, qui est parti prenante politique à cette discussion-là. Et aujourd'hui, on sait aussi qui est vraiment victime du terrorisme et qui subit le terrorisme. Donc, essayons d'avancer et d'arrêter de prendre les Maliens pour des dupes. Avançons vers les vraies choses. Aujourd'hui, les Gatias ou tous ceux qui se vendent d'être la République du Mali, nous sommes d'accord qu'il y a des oppositions. C'est bien sûr, c'est normal. C'est ça la politique. Mais aujourd'hui, en parlant d'État, parce qu'il dit qu'il faut mettre l'État devant nous et avancer, quel État faut-il mettre devant nous? Si l'État lui-même se condamne, quel type d'État, de quelle forme d'État voulions-nous un jour, en tant que tous citoyens de ce territoire-là, mettre devant nous? C'est la grande question que je répondre. Maintenant, si l'État a failli, c'est que réellement, quelque part, ce n'est pas une question de régime, c'est une question de format politique, c'est une question de système de gestion du territoire. C'est cela qui est mis en tout aujourd'hui. Et tant qu'il n'y a pas une réponse adéquate à cette question-là, c'est important notre façon de faire semblant que le Mali est souverain.
Alors.
Notre façon de faire semblant que l'État malien est souverain et l'intégrité du Mali a assuré l'innovation.
Alors, Ataï, permettez-moi juste de revenir un tout petit peu. Oui, le réseau est mauvais et je m'excuse de vous interrompre. Je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu sur les violences qui ont eu lieu entre Bamba et à Bamba, d'abord à Bamba et ensuite à Ber. Si nous n'avançons pas, nous sommes pratiquement à la fin.
C'est dans les devoirs des joueurs de la Malienne. Donc nous ne discutons qu'avec le gouvernement du Mali. S'il y a déjà un gouvernement au Mali, s'il y a un ennemi avec lequel nous faisons la guerre, c'est l'armée malienne. Nous sommes en guerre contre l'autorité d'État du Mali, pas avec des milices qui font la guerre à toute création. Il n'existe même pas.
Ceci est compris à taille. Est-ce que on peut savoir avec vous? Ok, nous, ce point de vue est compris, Ataï. Est-ce que nous pouvons savoir avec vous, la MINUSMA va tenir une rencontre ici à Bamako pour tenter de préparer Alger. Est-ce que le MNLA va participer à cette rencontre? Et si oui, quelles sont les chances aujourd'hui pour qu'il y ait le calme dans le nord du pays?
La MINUSMA, c'est de protéger la population. Sa mission, c'est d'éviter les incidents qui puissent contrôler la commune sur le territoire, c'est ça la mission de l'administration. Si on n'est pas de mesure de dire au gouvernement du Mali qu'assumer sa responsabilité d'État souverain pour assurer sa sécurité personnellement, c'est que l'administration a fui. Elle joue au pacte, c'est donc avant que l'administration n'initie de rencontre qui se vote.
Ataï, je m'excuse de vous interrompre. Malheureusement, la ligne est très mauvaise. Je m'excuse vraiment de vous interrompre. La ligne est très mauvaise. Nous allons donc continuer avec Speti Ag Akado. Speti, donc la MINUSMA va tenir cette rencontre ici à Bamako pour parler d'Alger. Que pensez-vous de cette approche de la MINUSMA?
Nous, de la société civile, nous saluons toutes les initiatives qui vont dans le sens de regrouper tout le monde, tous les acteurs. Et quand je dis les acteurs, c'est tous les Maliens. Pas seulement les Maliens du Nord, tous les Maliens. C'est un problème national. Donc, c'est dire que c'est une initiative à saluer. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à voir avec les autres et que c'est le gouvernement qui les intéresse, j'ai envie de leur dire que le gros Bella que je suis, n'est-ce pas, je ne me sens pas démagogue et je ne me sens pas à l'écart du processus. Pour la simple raison que lui qui est en train de parler, il sait que si c'est un problème de communauté, j'occupe le territoire du Nord plus que lui. N'est-ce pas, je suis plus représentatif du Nord que lui et je suis aussi plus productif que lui en termes de, parce que pour appartenir à un territoire ou bien pour s'approprier un territoire, faut-il au moins qu'on y apporte quelque chose. Moi je ne sens pas mon apport plus petit que son apport. Donc c'est pour dire que si ils pensent que les choses sont dépassées parce que eux, ils sont sur la table là-bas, ils sont en train de discuter, j'ai envie seulement de lui rappeler que pour moi ce n'est pas dépassé. Parce que moi, je suis sur le terrain là-bas. Et sur le terrain, je ne pense pas que lui, il ait plus de primauté ou bien plus de droit à discuter du territoire que moi. C'est dire seulement qu'on n'est pas à la table, mais nous sommes républicains et nous pensons que ce que nous disons est à l'adresse de tout le monde. Pas seulement à l'adresse de ceux qui ont des armes, mais à l'adresse de tous les Maliens conscients que la construction de ce pays-là ne peut pas être détruite par un groupe d'aventuriers.
Merci beaucoup, voilà. Speti Ag Akado. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Toutes nos excuses auprès des auditeurs pour la mauvaise qualité des différentes lignes que nous avons eues ce soir. Nous étions donc avec trois invités, Speti Ag Akado, membre de la société civile, et également Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA, et Almedi Ag Albaka du Gatia, le groupe d'autodéfense Touareg dans le Nord, pro Bamako. Alors c'est donc la fin de cette émission. Nous avons tenté de faire le point sur les conflits en cours dans le nord du Mali et notamment cette attaque du camp de l'armée malienne à Nampala. Le poids des événements sur le processus, il en a été question. Ces violences sont-elles un dernier barreau d'honneur des groupes armés? Nous l'avons développé dans la troisième partie. Nous sommes donc à la fin. Je suis Famoussa Sidibé. Petit Ndiara était à la mise en onde. Nuhum Diré était à la régie vidéo. Ousmane Diadje Touré et Rokia Danyoko ont réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Le
grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halo de Mauni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.